Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Regard en partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Regard ou comment regarder les œuvres artistiques au travers de nos questionnements de société ou peut-être l'inverse. Et pour en parler avec moi en studio, mes co-animatrices Pascal et Rémi.
Salut.
Bonjour.
Et Julie pour représenter la scène nationale. Bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez Radio B.
Et une soirée regard toute chaude à débriefer aujourd'hui, hein, puisqu'elle a eu lieu hier à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg, en partenariat avec la MJC Popcorn. Une soirée imaginée pour et surtout par les jeunes autour du manga et du cosplay.
Oui, tout à fait. Et avec nous en studio pour en discuter, une cosplayeuse, si j'ai bien retenu ma leçon. Et vous étiez hier soir sur le plateau de la soirée regard. Bonjour Edith Foc.
Bonjour.
Alors Rémi, tu as découvert cet univers avec le public présent hier.
Oui, alors déjà pour moi c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Quoi. Pour moi le manga c'est Pokémon quand j'avais 10 ans et puis c'est tout. Voilà quoi, j'ai pas eu droit au Dragon Ball Z, au truc comme ça. Mes parents n'étaient pas fans de TF1 donc non, j'ai pas eu droit. Si j'ai peut-être découvert un manga sur Castro quand j'étais un peu plus âgé, mais voilà, j'ai jamais été plus loin. Donc pour découvrir cet univers, hier j'étais à cette soirée Regard et j'ai été voir d'abord une spectatrice, Delphine, pour avoir un retour sur sa soirée. Puis j'ai demandé ensuite à son fils, Optis, comment il considérait le cosplay. Il fait d'ailleurs lui-même ses costumes.
Alors, le cosplay, moi je connais avec mon fils, j'en ai déjà même fait. En revanche, sur le manga, j'ai appris énormément de choses. Parce que c'est vrai que je commence à lire un peu des mangas. Bon, moi j'ai connu les mangas Dragon Ball, comme tout le monde, hein, Candy, Albator, mais il m'a beaucoup appris, je n'ai pas retenu son nom, je suis désolée.
Mathieu Pinon.
Franchement, j'ai beaucoup apprécié aussi les intervenants, les jeunes, tout, c'était vraiment très sympa et on a appris beaucoup de choses, ça fait plaisir.
En soi, le porter, je dirais que c'est juste c'est du kiff, par contre les faire à la main, je dirais que c'est du talent. Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait une armure de Monster Hunter en 2 semaines. Bon, c'était pas ça, hein, mais voilà. Aujourd'hui, ça fait du coup 5 ans que j'en fais. Et je trouve que je me suis améliorée. Du coup, je dirais que c'est un talent, mais que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Parce qu'il y a de la couture, il y a de l'armure, mais il y a d'autres trucs. Donc, c'est accessible à tout le monde, mais il faut s'entraîner.
Et est-ce que c'est une façon pour toi de donner vie à ce que tu lis, à ce que tu regardes ?
Carrément, ouais. Surtout qu'en fait, moi, j'aime bien faire des personnages qui sont niches, comme on dit, qui sont pas mis en valeur. Bon, là, par exemple, c'est un personnage qui n'est même pas humain, que j'ai fait en version humaine, parce que c'est mon trauma d'enfance. Mais sinon, ouais, j'aime bien mettre des personnages qui sont pas connus en valeur. Là, j'ai pas d'exemple en tête, désolée. Mais je sais que plus tard, je vais faire un cosplay de Final Fantasy XV, d'un personnage qui n'est pas très connu, qui s'appelle Ravus. Mais il est pas du tout mis en avant, et moi, personnellement, ce personnage-là, je l'aime, et je veux le mettre en avant, en fait, en le faisant à la main.
Et ben ouais. On mettra des photos sur les réseaux sociaux, ouais. Parce que là, ça donne envie de voir
les costumes. Les costumes étaient assez chouettes, ouais. J'avais l'impression d'être, comment ça s'appelle, Big Bang Theory, je sais qu'ils sont fans de cosplay et tout comme ça, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu, je suis peut-être un peu décalé, mais voilà, alors je suis ensuite, moi, retourné vers Mathieu Pinon qui est journaliste, et je crois qu'il a gagné hier le K-out, c'est comme ça qu'on dit, parce que pour présenter la soirée Regard, on avait un petit quiz pour que chacun puisse se situer, un petit peu situer son niveau de connaissance. Alors moi, mon niveau de connaissance était tel que j'ai même pas réussi à m'inscrire sur K-out, voilà ça, pour situer un peu le truc. Et donc Mathieu Pinon, il est revenu sur cet univers, parce que pour moi, là, comme je l'ai dit, les mangas, c'est j'y connais rien. Et je me suis demandé surtout, est-ce qu'on peut parler de 9e art pour le manga ? Est-ce que le manga, en fait, est un art comme la BD ou pas ? C'est un peu la grande question.
Je fais plus souvent le parallèle entre le manga et l'artisanat. Et c'est comme si on disait que la bande dessinée est un art, au sens où on va se retrouver avec des doubles pages magnifiques, des couleurs, les artistes prennent tout leur temps pour faire une BD qui va prendre 2-3 ans à sortir. Là où le manga, il faut que toutes les semaines, ça sorte. La transmission de savoir entre le mangaka et ses assistants se rapproche également beaucoup de l'artisanat avec les apprentis. Et de même que le cinéma est considéré comme un art et la série télé peut être considérée comme quelque chose d'un peu mineur, on trouve la même chose avec le manga qui a un côté très très feuilletonnant, très proche de la série dans son rythme. Donc je le considère plus comme un artisanat, mais ça n'empêche pas que les dessinateurs qu'ils font sont avant tout des artistes.
Alors, dans ma tête, moi, j'avais plutôt l'image d'une lecture pour les jeunes. Hein. Quand on va dans les médiathèques, le public qui lit les mangas, ben, c'est quand même, voilà, c'est pas le même que celui qui va emprunter le dernier Marc Lévy ou le dernier Mélissa Leblanc. Quoique.
Alors, le manga est un médium qui s'adresse à tout le monde. Vraiment. En France, on parle souvent de Tintin, la BD de 7 à 77 ans. Au Japon, ça n'existe pas. Vous allez avoir des mangas pour 7 à 12 ans, des mangas pour 12 à 17 ans, pour 17 à 20 ans, de 20 à 30. Et vraiment pour toutes, mais toutes les tranches d'âge peuvent trouver des mangas qui vont leur correspondre. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il s'avère que mon père a subi un cancer, donc il s'est remis, tout va bien. Mais je lui ai offert un livre qui s'appelle Mon cancer couillon, et c'est un mangaka qui témoigne de ce qui lui est arrivé quand il a dû subir l'ablation testicule à cause d'un cancer. Et ça va parler à beaucoup de personnes qui subissent la maladie et surtout l'hospitalisation. Et c'est fait avec beaucoup de bonne humeur qui permettent de dédramatiser la situation. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde.
Alors, je suis resté un petit peu avec Mathieu Pinon et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que malgré tout, dans l'imaginaire, on se dit que le manga, c'est ce fameux médium de jeunes. Alors peut-être qu'à l'époque, enfin dans mon époque, dans ma jeunesse, j'ai un vague souvenir de Ségolène Royal qui disait que le manga rendait violent. Alors est-ce qu'on est resté dans cette conception? Voilà, je l'ai interrogé. Est-ce que le manga, pourquoi est-ce que c'est ce médium de jeunes?
Il y a plein de facteurs qui expliquent que le manga est assimilé à la jeunesse en France. Le premier, c'est déjà l'histoire que la France a par rapport à la bande dessinée. Quand c'est arrivé, on a considéré ça comme des illustrés uniquement destinés à un jeune public. Aujourd'hui, il y a des titres en bande dessinée qui sont clairement destinés à un public mature. Je pense par exemple à Black Sad, qui est le premier titre qui me vient à l'esprit, mais que je ne confierais pas à un enfant de 8 ans. Et le deuxième problème, le deuxième facteur, c'est que les titres les plus populaires en France, sur les 1000 séries qui sont disponibles, il y en a 20 qui font 50% du chiffre d'affaires, et ce sont des séries destinées à un public de jeunes garçons. Donc on a ce réflexe de penser que le manga correspond aux jeunes garçons, alors qu'en fait on occulte les 980 séries restantes qui parle à tous les publics.
Et ben, je vous cache pas que moi j'étais un peu quand même chamboulé dans mes représentations et j'ai presque envie justement de découvrir ces mangas, même si j'ai toujours du mal avec ces yeux énormes, voilà. Mais je crois que Julie, c'est aussi ça le but des soirées regards, hein, faire changer ses représentations.
Ah oui, c'est complètement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher d'autres choses autrement par celles et ceux qui le pratiquent, qui aiment ce qu'ils font. Et puis vraiment, cette soirée d'hier soir était totalement différente puisqu'elle a été pensée par et avec les jeunes. C'est-à-dire que c'est eux qui ont proposé la thématique, bien sûr, mais également la physiologie des intervenants. C'est-à-dire qu'ils ont réellement demandé quelqu'un qui était spécialiste des mangas et quelqu'un qui faisait du cosplay. Et c'était la première base. C'est eux qui ont proposé un caout puisqu'ils sont dans la technologie. C'est leur côté très geek. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont proposé également que les gens viennent costumer, viennent en cosplay également et puissent faire un défilé. Enfin, ils ont participé à l'animation. C'est eux qui ont posé les questions. Même si nous, adultes, on a essayé de mettre un peu de forme puisqu'on a quand même quelque chose d'assez institutionnel à garder dans le cadre. En tout cas, ils ont réussi leur objectif et ils ont réussi leur soirée, enfin, en tout cas de mon point de vue. Et de plus, on était pour une fois sur un registre qui parlait à tout le monde. On n'était pas sur quelque chose qui ne parlait qu'à un public, entre guillemets, adulte, mais vraiment sur une posture qui allait à tout le monde. Et c'est rare, en fait, d'avoir des conférences avec du fond qui soient aussi accessibles à des jeunes de collège. Et pour ça, c'était assez génial.
Et c'est vrai que même si on n'y connaît pas grand-chose, en fait, on peut quand même se dire, ah oui, mais ça, on est quand même dans le manga. Enfin, on a parlé à un moment d'Okusai, je me suis dit, ah ouais, Okusai, c'est du manga. On a parlé de Mario, on a parlé de Nintendo, je me suis dit, ah oui, mais il y a un lien, ouais, il y a un lien quand même là-dedans.
Oui, quoi. Avec toute la pop culture japonaise, avec le Comic-Con de San Diego, comme tu le disais, c'est vraiment le lien avec Big Bang Theory, et puis un début de cosplay qui était plus côté américain Marvel, mais qui tend vraiment à se japoniser. Et puis, je t'avoue que personnellement, j'étais aussi assez récalcitrante à certains mangas, ma fille en étant une grande consommatrice. Et néanmoins, elle a réussi à me faire changer des postures et puis à faire le lien avec beaucoup d'animés, avec des choses qu'on a pu voir, notamment pendant le festival du film d'animation. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, le lien également au cosplay, à incarner ces personnages et à se décaler et à vraiment s'approprier quelque chose. Puisque, comme le disait Mathieu dans le petit intermède juste avant, c'est vraiment des mangas qui vont réussir aussi à parler aux jeunes et avoir un personnage qui évolue. Et il m'a fait remarquer hier en disant, mais si on prend Tintin, il a quel âge?
On ne sait pas. Et si on prend certains personnages, les jeunes le commencent comme Harry Potter. Ils commencent le premier tome avec l'orage et puis ils évoluent avec le personnage qui va se heurter à des choses dans la vie qui représentent ce qu'eux vivent également au quotidien et qui leur permettent de s'identifier un peu plus et d'où le fait d'aller rechercher un personnage qui leur ressemble et qu'ils risquent d'incarner en cosplay. C'est ce qu'ils ont fait hier soir.
C'est que la logique d'identification est forte quand
Elle est très, très forte.
Dans le manga, mais c'est en lien, je pense aussi, avec la culture japonaise où il y a ce besoin de s'identifier avec quelque chose aussi. Quoi. C'est...
Oui, et puis de s'échapper de pas mal de choses aussi, de par une structure culturelle différente.
Et bien justement, alors pour les auditeurs, auditrices qui n'étaient pas là hier et pour qui le monde des mangas et du cosplay reste encore un monde obscur, on a la chance d'avoir en studio avec nous Ellie Fock. On l'a dit en intro, vous êtes cosplayeuse. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le cosplay ?
Alors, pour faire simple, cosplay, ça va être un mélange entre deux mots qui veut dire costume et playing, donc cosplay. En gros, on incarne le personnage, on le joue, on peut le jouer à notre façon, on peut le jouer comme il est représenté dans l'œuvre. Donc, en soi, c'est juste le but de s'amuser tout en incarnant un personnage qu'on aime.
Et quand vous dites vous le jouez, c'est un peu comme du théâtre, vous vous mettez en scène, vous relisez, je sais pas, des mangas qui sont en lien avec le personnage. Qu'est-ce que ça veut dire, le jouer ?
C'est exactement comme au théâtre, on va dire. Oui, c'est ça, c'est qu'on incarne le personnage et c'est à nous, en fait, de l'interpréter comme on le souhaite. Si, par exemple, le personnage, il va souvent, je vais prendre l'exemple de Sangoku, qui fait un kamehameha, on va cosplayer Sangoku, on va faire un kamehameha en criant aussi. En fait, on incarne le personnage tout en jouant.
Ok. Alors moi, j'ai trouvé sur Internet les propos d'un sociologue qui s'appelle Éric Donfou. Lui, il explique que le cosplay, il aurait ses origines dans les années 70-80. En fait, ça daterait de la sortie de Star Wars, Star Trek. Ouais, ça a dû être évoqué hier hein, où les personnes se déguisaient en personnages de Star Wars pour aller assister aux projections. Et puis que c'est à partir des années 2000 que ça aurait touché le Japon et l'univers du manga. Et du coup, la question, c'est est-ce que dans la communauté des cosplayeurs, cosplayeuses, est-ce que vous les voyez, ces différentes générations ?
Alors, on les voit beaucoup, en fait. C'est vrai que ceux qui repeignent du Star Wars, généralement, c'est une tranche d'âge assez, on va dire, assez bien évoluée. Et généralement, les plus jeunes font plus du manga. Mais il peut arriver, justement, qu'en fait, même dans la communauté Star Wars, il y ait des jeunes qui font des cosplays de Star Wars, comme il existe des personnages, des personnes plus âgées qui vont faire des personnages aussi, peut-être plus âgés ou pas du tout, mais dans les mangas. En fait, après, tout se mélange et c'est ça la beauté du cosplay, en fait.
Et alors, c'est quoi la vie d'une cosplayeuse ? À quel moment est-ce que vous devenez votre personnage ? Est-ce que vous en avez un seul et vous ne changez pas ? Est-ce que vous en avez plein ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ?
Alors ça, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont rester sur un personnage et qui vont le décliner de plusieurs de façons différentes. D'autres, comme moi, je sais que j'ai une dizaine, voire plus de cosplays différents. Et j'incarne un tel ou un tel en fonction de si j'ai envie de le porter ou si j'ai envie de l'incarner. Ça dépend de beaucoup de choses. Après, si j'ai des projets aussi avec des amis, des fois on fait des groupes ou des duos. Et par exemple, on va me dire « Ah, ça te dit de faire tel personnage, moi je fais tel personnage. » Et on va se retrouver ensemble pour faire ce petit groupe de personnages du même univers.
Alors, on a entendu tout à l'heure une personne qui crée ses propres costumes. C'est votre cas aussi ?
Alors non, moi je les achète. J'aimerais bien en créer. Malheureusement, je manque d'espace et de temps. Mais c'est vrai que oui, le cosplay, ça peut être soit des cosplays faits main, soit des cosplays achetés. Il y a de plus en plus de boutiques maintenant qui offrent cette possibilité justement à des gens qui n'ont peut-être pas le temps ni les moyens, puisque ça demande énormément de moyens aussi de faire son cosplay. Et ça leur permet aussi, comme moi par exemple, d'incarner un personnage qu'on aime sans spécialement se ruiner et justement perdre du temps sur la confection du costume. Après, ça reste quand même si le cosplay est acheté, il reste quand même pas mal de choses à faire, notamment styliser une wig, peut-être refaire un accessoire qui a cassé durant le transport.
Une wig,
c'est une perruque. Donc peut-être qu'il faut refaire un accessoire qui s'est cassé, ou alors si par exemple la mesure, puisque vu que c'est des tailles plus ou moins uniques, si par exemple la mesure de la taille ne suffit pas, il faut pouvoir aussi réussir à nous le remettre, que ça soit à notre forme à nous.
Ça ressemble un peu à quand on est tout petit, qu'on adore se déguiser et prendre un petit peu les déguisements qu'on a à portée de main, en fait.
Exactement. Et ça, dans le monde du cosplay, ça existe aussi. C'est ce qu'on appelle les cosplays casual. Donc, c'est même les cosplays de placard, à la rigueur. C'est quand on n'a pas spécialement envie ou ni l'argent ou les moyens d'avoir le cosplay, on cherche dans nos placards, en fait, plusieurs éléments de tenue pour pouvoir reconstituer avec ça le cosplay original.
Et vous vous regroupez, vous nous avez dit, vous vous regroupez entre communautés. Comment ça marche? Comment vous savez qu'il y a d'autres cosplayers dans l'entourage? Alors j'imagine qu'il y a vos amis, mais est-ce que vous allez rencontrer d'autres cosplayers, cosplayeuses ailleurs?
Alors, c'est là où la magie des réseaux sociaux existe, c'est que maintenant, en fait, on peut se retrouver très facilement avec les hashtags, avec certains forums ou quoi que ce soit. Il y a aussi les conventions en réel, donc c'est-à-dire qu'en convention, tu peux croiser une personne qui, par exemple, a le même cosplay que toi ou dans le même univers que toi. Vous pouvez discuter, parler de vos projets et après, à ce moment-là, vous restez en contact et à la fin, vous dites « Eh, en fait, ça te dit de reparler de ce projet ?» Et vous en reparlez et en fait, vous le faites pour une prochaine convention ou une sortie cosplay ou alors si jamais il y a un rendez-vous avec des photographes.
Alors, par contre, les réseaux sociaux ont leur importance, mais finalement, il y a toujours le cosplay. Ça se fait qu'en réel, on ne peut pas imaginer du cosplay en virtuel, donc malgré l'évolution des technologies, en fait, malgré tout, pour qu'il y ait du cosplay, il faut se voir en vrai quand même.
Non, je pense que le cosplay peut aussi jouer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'une personne peut très bien faire du cosplay chez elle, se prendre en photo elle-même derrière un fond qu'elle a fait, et juste publier les photos sur les réseaux sociaux, mais pas spécialement aimer porter un cosplay en convention ou en dehors de chez elle.
D'accord.
Et ben du coup, comme on est dans la thématique génération, j'avais une question sur les plus vieux de votre entourage et le regard qu'ils peuvent porter sur vous. Je sais pas, les parents, les grands-parents. Est-ce que vous avez des retours sur ces moments où vous êtes dans votre posture de cosplayeuse?
Alors, ça dépend. Moi, je sais que mes parents me soutiennent par rapport à ça. Ma famille me soutient par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de souci. Ils m'ont aidé justement à financer quelques cosplays aussi. Mais je sais qu'en convention, par exemple, j'ai les parents de petits-enfants qui viennent prendre une photo avec moi, qui eux aussi trouvent ça exceptionnel, qui adorent le costume, qui me félicitent ou qui félicitent d'autres cosplayers. C'est même eux, des fois, qui prennent l'initiative de nous prendre en photo parce qu'ils trouvent le cosplay magnifique et super joli et qui veulent le montrer à leur famille ou quoi que ce soit.
Et est-ce que, du coup, il y aurait un message à faire passer aux adultes dont les enfants auraient envie de se lancer là-dedans et qui se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? En plus, ça coûte de l'argent » ou s'il y a les réseaux sociaux Quel message vous auriez envie de leur faire passer ?
Alors, j'ai envie de dire que plus leur laisser en fait l'opportunité de faire du cosplay et s'il n'y a pas spécialement les moyens derrière, le cosplay en soi, une perruque, si on prend une perruque, c'est environ 10-15 euros. À la rigueur, il ne faut pas avoir peur aussi d'acheter sur les sites chinois qui existent, donc AliExpress par exemple, ils ont de très bonnes perruques, il faut regarder les avis ou quoi que ce soit. Et si les enfants s'amusent, en fait, c'est le principal dans le cosplay. Ce n'est pas obligé que l'enfant sorte comme ça ou qu'il aille à des conventions. Si l'enfant veut juste s'amuser à faire tel personnage, il ne faut pas l'en empêcher. Enfin, pour moi, il ne faut pas l'en empêcher et quitte à fouiller dans les placards pour, comme j'ai dit, faire un cosplay placard. Ça peut toujours être un bon début, j'ai commencé par là personnellement.
C'est une bonne activité à faire en centre de loisirs. Ça pourrait donner des idées à ceux qui nous écoutent.
Bah écoute, tu sais qu'il y a des colos manga et ils font du cosplay. Hein.
Allez, génial. Bon, bah, merci en tout cas pour tout cet éclairage sur cet univers.
Radio B, les bonnes ondes.
Au-delà des soirées regards, il y a une programmation artistique et plein de spectacles. En février, on en a vu deux. Élodie, tu es allée voir à huis clos de et avec Kerry James.
Oui, et il y a plein de choses que j'ai aimées. Alors d'abord, arriver au théâtre et voir beaucoup, beaucoup de jeunes, des garçons pas mal, parce que souvent, c'est quand même plus des filles. Hein. Vous savez, les littéraires option théâtre, gros cliché.
On en parlera après avec Clémentine Sélarié.
Ce soir-là, un petit peu plus de diversité et pour le coup, un public ravi au taquet, standing ovation et quatre rappels quand même. Donc voilà, super ambiance, la même en fait que celle d'il y a quelques années pour le premier spectacle de Kerry James, qui s'appelait À Vif. Et vraiment, moi, j'ai jamais revu une ambiance pareille au théâtre. Ça, c'est une grosse réussite pour l'artiste. Et puis, alors, le spectacle. Alors, je vais vous répondre de manière assez simple et basique. Il faut avoir la ref. Kerry James, ça reste Kerry James. Dès le départ, dès que Kerry James a commencé à parler, je me suis dit, c'est les paroles de ses chansons. Donc, petit retour en arrière, Kerry James, il débute le rap dans les années 90 à l'âge de 11 ans. C'est les prémices du mouvement hip-hop en France et il incarne avec DJ Mehdi la génération de génies qui montent et qui vont révolutionner le rap en France. À ce propos, filez vite regarder la série docu en 6 épisodes d'Arte autour de DJ Mehdi. On a quand même eu la chance en France d'avoir cet ado qui a contribué à lancer à la fois les plus grands noms du rap français, mais aussi la fameuse French Touch électro. Vous savez, Daft Punk, Justice et compagnie. Donc, parenthèse fermée, vous l'avez compris, Kery James, c'est un des boss du rap français. Son rap est unique, à la fois poétique et militant, revendicatif, anti-système, mais aussi adapté pour toucher tout le monde. C'est la star et une référence. Et l'artiste Kery James, comme nombre d'autres artistes, s'est essayé à d'autres arts, les films sur Netflix et le théâtre, un peu comme Joey Starr. Quand on ne connaît pas Kery James, ça peut être une sacrée surprise de le voir sur scène. Hein, le mec, il est là, comme il est dans ses chansons, en mode vénère, hardcore, comme il dirait. Et attention, hein, il débite et ça envoie du lourd. Alors là, moi, j'ai oscillé entre plusieurs sentiments. Wow, quelle puissance dans les mots et les idées. Ah ouais, bon, ça on sait, tu l'as déjà dit dans tes chansons, dans tes films, on peut aller un petit peu plus loin là maintenant. Bon, conclusion, un spectacle fort parce que intense dans ce qu'il raconte, mais peut-être un regret parce que cet artiste talentueux pourrait aller encore un peu plus loin dans le propos, dans la mise en scène. Alors là, c'était hyper classique. Et aussi, petite pique au passage, dans ce qu'il donne à son public après le spectacle. Parce que pour le coup, pas d'échange avec la salle. À peine un merci adressé à la foule, un peu dommage, surtout après 4 rappels et une salle debout en délire. Parce que bon, quand même, on peut être une grande star et tout de même échanger avec son public, non ?
Oui, en tout cas, c'est ce que nous a proposé Clémentine Sélarié avec le spectacle. C'était
Je suis la maman du bourreau. C'était impressionnant, Pascal, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Et même avec un côté presque dérangeant, parce qu'on avait vraiment l'impression, alors le titre du spectacle de Kery James, c'est Huis clos, mais là on avait aussi l'impression, enfin on était dans un huis clos, on était enfermé avec Clémentine Sélarié, et on était tellement enfermé qu'il y avait un petit effet de scène qui faisait que, pendant le spectacle, les murs de la cellule les murs se refermaient quand même au fur et à mesure. Quoi. Alors moi, je suis rarement fan des seuls en scène. Hein, c'est mon côté un peu hyperactif qui a tendance à m'envoyer dormir quand une personne se la raconte seule sur scène. Mais là, franchement, ça n'a pas été le cas. Alors déjà, parce que Clémentine Sélarié, en fait, elle ne raconte pas son histoire. Donc elle va nous sortir un truc qui prend aux tripes, mais ce n'est pas son histoire, ce n'est pas elle qui l'a vécu, c'est celle de Gabrielle de Miremont. Et on peut s'imaginer tout de suite que c'est une pièce qui est inspirée du réel. Hein. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un livre qui a été écrit d'ailleurs non pas par une femme, mais par un homme, David Lelello. Alors, la femme du bourreau, elle n'existe pas. Enfin, c'est vrai, on est vraiment dans de la fiction. Et pourtant, ça résonne comme si elle existait, parce que l'auteur de ce bouquin, il s'inspirait d'un paquet d'affaires qu'on peut entendre avec toujours la place et le lien avec le religieux. C'est-à-dire que dans « Je suis la maman du bourreau », et bien en fait, le fils, il est bourreau, mais il est aussi prêtre. Donc on a tout le petit lien, le petit fil avec la religion qui s'insère. Et du coup, la maman qui a presque un côté un peu fierté d'avoir un fils qui est devenu prêtre, elle qui est dans une famille extrêmement, extrêmement croyante. Et puis, ben mince, ça interroge toutes les représentations qu'on a autour de la religion, quoi. Et puis, il y a le côté aussi maman, quoi. Enfin, rien que le nom de la pièce, « Je suis la maman », en fait, la maman, c'est un peu le côté innocence, quoi. Et au final, ben, voilà, Clémentine Sélarié nous montre que ben, ouais, je suis la maman, mon fils est proche de Dieu, un petit ange, mais voilà, sinon, c'est un bourreau. Ça peut arriver finalement à tout le monde, quoi. Ça peut arriver à tout le monde d'être les parents d'un enfant qui va transgresser les lois, les règles, et qui va aller commettre l'abominable, quoi, qui va se comporter ouais, comme le bourreau. Mais le mot bourreau est aussi bien choisi parce qu'en fait, le bourreau, c'est pas lui qui décide de son action, quoi. Le bourreau, celui qui va couper les têtes, c'est parce qu'il y a eu une ordonnance de justice derrière. Donc il agit. Donc, le bourreau, finalement, la maman est pas responsable de ce que fait son fils, même si on peut se poser quand même de la question de l'éducation dans un cadre religieux. Mais à côté de ça, le fils, ben, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il va commettre l'irréparable? Eh ben, est-ce qu'il obéit à autre chose? Est-ce qu'il est dans un système qui permet aussi ça, qui le fait déculpabiliser, qui va lui donner une toute puissance? Enfin, voilà, on est vraiment dans tout ce questionnement-là, pendant la pièce, mais surtout après la pièce. Et c'est lourd, concrètement, c'est assez lourd. Mais je crois, Pascal, que Clémentine Sélarié, à la fin de la pièce, elle a réussi à faire retomber le soufflet assez vite. Hein. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Hein.
Oui, je pense que c'est peut-être même fait pour ça. Enfin, d'ailleurs, elle l'a exprimé un peu comme ça. Hein. Elle a fait un... Enfin, on a eu un droit à un bord de scène. Enfin, que moi, j'ai jamais connu d'une générosité assez impressionnante. Alors, semble-t-il, c'est une comédienne qui en est plutôt habituée à ce, à des bords de scène très généreux. Et c'est vrai que là, je pense que aussi la lourdeur de, du sujet, elle l'a dit d'ailleurs, elle faisait redescendre un peu que chacun reparte pas chez soi avec, bah voilà, en ayant vu, entendu cette pièce avec des choses trop lourdes, parce qu'il y a un aspect aussi dans la pièce qui est dont tu as parlé Rémi, mais il y a aussi le lien que la mère du bourreau qu'elle incarne tisse avec une des victimes. Et ça c'est abordé, voilà, elle l'aborde et j'ai trouvé ça très fort de l'aborder, parce que c'est assez rarement abordé, le lien des proches avec la victime, là en l'occurrence de son fils, une des victimes de son fils. Et puis aussi je fais le lien aussi avec tous les liens avec les affaires actuelles, hein, mais on a quand même dans ce que tu expliques, Rémi, tout ce que ça pose comme question et ce que ça lui pose comme question en tant que mère du bourreau, de ce qu'elle a dans son éducation, elle qui pensait avoir bien éduqué son fils, qui était devenu voilà, avec une posture reconnue dans l'église. Il y a aussi en fond la question de l'inceste, hein, la question de ce qui est, en tout cas, de l'incestuel, de l'incestueux. C'est la mère du bourreau qui parle. Et qu'est-ce qu'elle aussi, elle a... Voilà, bon, de ça, on reste avec toutes ces questions. Donc, pour faire redescendre tout cela, elle nous a proposé un bord de scène, Madame Clémentine Sélarier, voilà, très généreux. Alors d'abord, sur la pièce, hein, elle a pu nous parler de la pièce, de son auteur, du livre dans lequel elle était inspirée, de ce qu'elle était, comment elle en avait fait voilà, ce texte, cette mise en scène aussi, hein, que tu as bien décrit, Rémi, et voilà, qu'on voit refermer... qu'on se voit refermer sur elle et sur nous aussi, spectateurs. Voilà, les remerciements à son équipe, à l'équipe du théâtre de la scène nationale de Bourg.
C'est assez surprenant, dans les remerciements qu'elle a adressés, en fait, aux techniciens, aux personnels. Enfin, c'est assez...
Non, c'est ça, généreuse dans tous les aspects. Elle a aussi beaucoup insisté pour dire qu'elle avait eu la chance, et c'est pas toujours le cas en tournée, de pouvoir être... L'équipe a eu la chance de pouvoir être deux soirs de suite en représentation au même endroit. Ce qui nous a permis de vivre, puisqu'avec Rémi, on est allé voir, on était à la deuxième représentation. On a eu un moment assez exceptionnel, puisque la veille, en fait, Clémentine Sélarier, sur le bord de scène, elle laisse le public lui poser des questions. Et vraisemblablement, la veille, elle avait eu une jeune femme, Violette. Alors, une jeune femme option théâtre au lycée à Bourg, en terminale. Il se trouve que c'est une jeune qu'on connaît, parce que Radio B, sur une soirée regarde, parce qu'on l'a interviewé précédemment. Il se trouve que Violette lui avait posé la question la veille, sur le bord de scène, de comment elle faisait pour être compréhensible dans sa diction, alors qu'elle passe une partie de la pièce à pleurer.
Quasiment toute la pièce.
Ouais. À pleurer, du coup, voilà, c'est une question très technique. Et Clémentine Sélarier lui a proposé de revenir le lendemain et de travailler un morceau du texte, hein, que Violette a choisi, et qu'elle reprendrait ça ensemble, elle lui montrerait, et pari tenu, Violette est revenue le vendredi soir. Elle est montée sur scène et nous on l'a vu, tout le public est resté, c'est incroyable. Elle a donné trois fois le texte. Entre-temps, Clémentine Sélarier, là, vraiment avec des propos encourageants, bienveillants, lui a donné des conseils sur le placement de sa voix, dans le thorax, sa posture sur scène. Et on a vu Violette, nous, public, on a vu l'évolution prestation.
Elle a eu droit à une vraie masterclass. C'était une masterclass en public, quoi. C'est impressionnant, quoi, le fait de proposer ça.
Et ça n'a pas du tout dérivé dans quelque chose entre Clémentine Sélarier et Violette. Vraiment, tout le public, on a été... c'était assez impressionnant de voir aussi cette jeune fille, l'évolution en peu de temps, au vu des conseils de la comédienne. Moi, on voulait dire, je crois, bravo à Violette et merci à Madame Sélarier.
de spectacles avec des expériences assez revigorantes. Oui. Julie, du côté de la scène nationale, vous avez eu des retours sur ces soirées-là ?
Ah, on a toujours des retours assez différents, mais en tout cas, ils rejoignent vraiment vos propos. Des gens comblés par Kerry James, parce que c'est toujours intéressant de recevoir ce genre de spectacle en nos murs. Et puis surtout, d'avoir accès et de toucher d'autres publics que celui qui est habitué au théâtre, en tout cas celles et ceux qui s'intéressent à tout ce qui est production dans le coin. Et Clémentine Sélarier, qui, ce n'est pas la première fois qu'elle vient, mais qui a encore une fois montré sa vraie générosité, en toujours qu'elle soit, que ce soit sur scène ou avec les publics, ou avec l'équipe, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est généreux de bout en blanc et de manière réelle. C'est pas quelqu'un qui va, pour le coup, jouer, mais qui le fait vraiment et qui le partage avec un vrai cœur, une grande dame, vraiment, du théâtre. Et nous avons eu la chance de l'avoir reçue en nos murs. En tout cas, tout le monde a été ravi de l'accueillir. On était tous et toutes ravis dans l'équipe qu'elle puisse participer deux soirs de suite, avoir deux belles représentations. Et puis, cette improvisation réelle avec la jeune Violette a vraiment marqué tout le monde parce que, encore une fois, quelque chose de simple qui a coulé, qui a continué et qui a réellement continué cette donnée de maman, vraiment pour rebondir sur le mot qui est important ici, de continuer à donner, en fait, vraiment dans la générosité jusqu'au bout.
Et puis, ce n'est pas fini, du coup, pour la scène nationale. Il y a encore des choses à venir avec un spectacle à voir ce soir.
Alors, c'est demain soir ?
Demain soir.
C'est demain soir, le 13. Ah oui, pardon, c'est demain soir, c'est demain ça, soir. Le 13. En première partie, avant le spectacle, la visite guidée de l'exposition en cours, qui est l'exposition de Juliette Bertrand, jeune artiste plasticienne qui a venu proposer son exposition intitulée « Faire des bêtises ». Donc, c'est assez, toujours intéressant de venir voir et écouter les plasticiens à qui on ne donne pas la parole et qui nous expliquent la genèse vraiment de, leur, de leurs installations. Et il sera suivi par le spectacle de Paradoxal, qui est le spectacle proposé par François Vérune, notre artiste invité de la soirée Regard du 28 janvier. Donc, cette danse très lente, très spéciale et particulière, amenée avec une production sonore propre à lui. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce spectacle.
Et puis un pop-up géant.
Alors un pop-up géant proposé par le spectacle intitulé Les Somnambules. Vraiment quelque chose, on connaît tous les pop-up dans les livres pour enfants ou quand on ouvre la page, un nouvel univers se déploie. Eh bien, il va se passer exactement la même chose sur scène, avec quelque chose d'assez délicat, avec un jeu de lumière assez dingue et des petites figurines marionnettes avec un théâtre d'ombre qui va nous parler d'une ville la nuit et de ses évolutions et de son lien aux gens. C'est quelque chose d'assez poétique et d'assez beau, vraiment quelque chose d'assez insolite. On voit très peu ce genre de spectacle.
Et le prochain Temps Fort Génération ?
Alors, le prochain Temps Fort Génération, là, pour le coup, c'est trois jours d'événements qui vont se passer en nos murs, le vendredi, le samedi et le dimanche, donc à partir du 28 mars, 28, 29 et 30 mars, avec des ateliers de danse, avec une boum, avec un spectacle intitulé La Flemme, qui est la production de Benoît Payon et de la Compagnie Institut, notre artiste complice sur cette thématique génération. Et puis, une soirée conversation, une soirée regard un peu particulière, puisque c'est la carte blanche de notre artiste complice, qui va justement essayer d'aller décortiquer ce lien entre les générations, d'aller pousser, dérouter nos clichés et les éléments. Pour ça, au plateau, nous aurons cinq duos de générations, de trois générations différentes. Donc, des gens qui se connaissent, qui ne sont pas forcément de la même famille, mais en tout cas, qui se côtoient, qui se connaissent et qui vont être mis en scène par Benoît et qui vont être interviewés par la journaliste Léa Capuano et qui va être un petit peu bousculé par certains textes qui seront lus par la comédienne Julie Rutowski. Encore quelque chose à découvrir, des actions qui seront encore une fois une belle soirée regard au plateau et en grande salle.
Et toutes les infos seront sur le site ou sont déjà sur le site internet de la scène nationale, j'imagine.
Oh, complètement, vous pouvez aller voir. Et puis, beaucoup de choses gratuites dans ces propositions. Et l'idée, encore une fois, est de mêler les générations, de revoir nos différentes postures et de passer un temps ensemble.
Eh bien, merci pour ces infos. Merci à notre invité. Merci à Jimmy à la technique. Merci à vous, co-animateurs, co-animatrices. Et puis, on se dit au mois prochain. Merci.
Allez, au revoir.
À la prochaine. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.
Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.